Il s'agit d'une pratique qui vise à rendre donc nos objets quotidiens défaillants. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Cette tactique des industriels commence sérieusement à fatiguer les consommateurs qui ont le sentiment de se faire arnaquer. Laetitia Vasseur est la cofondatrice de l'association HOP pour Halte à l'obsolescence programmée. Elle combat cette pratique particulièrement désastreuse pour l'environnement. Son association vient de montrer que la durée de vie des lave-linges ne cessait de diminuer au fil du temps. Laetitia Vasseur publie avec Samuel Sauvage du jetable au durable aux éditions Manifesto pour en finir avec l'obsolescence programmée. C'est le dossier de la Terre au Carré et j'attends toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De quoi allons-nous parler tout à l'heure avec vous?
Je vous emmène plonger dans les poubelles des supermarchés, gaspillage alimentaire au menu.
Dans la deuxième demi-heure, le reportage de la semaine en Méditerranée avec Maude de Carpentier qui a rencontré une ONG qui milite pour la préservation des littoraux. Vos solutions pour la planète avec Étienne, un auditeur ornithologue qui va nous parler de grues cendrées. Et puis enfin, nos invités découvertes reviennent d'une expédition inédite au large de la Guyane qui a permis d'étudier un écosystème marin. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré réalisée par Céline Hilla avec à la technique Louis Audebert et Céline Guéribi.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Alors il faudrait vraiment une vraie directive européenne avec... Il faudrait en fait définir ce qu'on appelle un écocide, c'est-à-dire un crime contre l'environnement, parce que l'obsolescence programmée, c'est un crime contre l'environnement. Quand on sait qu'on encourage la consommation d'objets, on la force même, c'est plus que l'encourager, hein, alors que les ressources sont en train de s'épuiser, c'est un vrai crime. Donc là, il faudrait que ça soit reconnu comme tel et que les fabricants ne puissent plus mettre sur le marché des objets dont ils n'auraient pas montré qu'ils peuvent durer longtemps et que surtout on peut les réparer.
C'était la voix de la journaliste Marie-Monique Robin dans l'humeur vagabonde de Kathleen Evin. Bonjour Laetitia Vasseur.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes la cofondatrice et directrice de cette association HOP, qui signifie donc Halte à l'obsolescence programmée. Et vous publiez donc cet ouvrage du jetable au durable aux éditions alternatives. Et c'est un vrai combat que vous menez contre cette technique aujourd'hui, d'ailleurs mieux connue quand même du grand public et qui consiste à diminuer la durée de vie d'un produit. Pourquoi est-ce que vous êtes lancée, vous, dans cette guerre?
C'est un sujet qui me passionne depuis assez longtemps maintenant et qui, je pense, fait écho pour beaucoup de citoyens. C'est aussi en voyageant que je me suis rendu compte des modes de consommation qui pouvaient vraiment impacter notre environnement très fortement. Et donc, à la suite du délit dont on reparlera certainement, auquel j'avais d'ailleurs contribué dans une autre vie, j'ai vraiment eu envie de fédérer les citoyens et de faire entendre notre voix commune autour de ces sujets.
C'est quelque chose qui nous interroge dans notre façon même de consommer, hein, au fond, cette pratique.
Oui, bien sûr, c'est un enjeu à la fois écologique, naturellement, mais aussi économique. C'est très clair, mais aussi de consommation de notre vie quotidienne. Et c'est de voir l'intérêt du consommateur et l'intérêt de l'écologie qui vont ensemble, c'est quelque chose de très puissant.
Est-ce que ce terme est mieux connu maintenant, justement, du public?
Oui, clairement. Moi, j'ai commencé à travailler sur ça en 2012.
On disait, mais qu'est-ce que c'est, hein, à l'époque?
Oui, ouais. Exactement. On se disait, c'est un terme un peu barbare. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien connu. Tout le monde a pris conscience de ces pratiques et de, globalement, le problème de la durée de vie des objets. Qui était maltraité en fait avant et qui commence de plus en plus à être bien intégré.
Ouais. C'est une vieille histoire en réalité, l'obsolescence programmée, hein. Vous en parlez d'ailleurs dans l'ouvrage, ça remonte aux années 30.
Oui, dans les années 30, en fait, on avait plutôt une perception positive de l'obsolescence programmée parce qu'on pensait que ça pouvait redynamiser la croissance et certainement ça a porté ses fruits. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que tout ça avait des enjeux, enfin des impacts environnementaux négatifs et qu'aujourd'hui, on a un enjeu climatique devant nous et on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et donc, on est obligé de revoir les choses sous cet angle.
Est-ce que ça a changé votre vie, vous-même, de vous intéresser à ce sujet?
Oui, tout à fait. Ce sujet, je le connaissais déjà et forcément, ça avait des échos dans ma vie de tous les jours. Mais après, c'est aussi en voyageant, se confrontant à la sobriété, que vraiment j'ai eu envie de l'appliquer encore plus dans ma vie quotidienne et de devenir quelque part militante du sujet et dans le secteur associatif aussi.
Ça vous a fait faire beaucoup d'économies. Est-ce que vous avez été capable de l'évaluer d'une certaine manière?
Pas vraiment, mais en fait, à la fois, bon, j'ai toujours été dans, quand même dans une certaine sobriété de consommation en général, mais bon, c'est sûr que quand on achète moins de vêtements, par exemple, on épargne un budget. Après, c'est aussi un effet cliquet, on commence par peut-être acheter moins d'objets ou faire zéro déchet, puis au final, on devient aussi végétarien ou on n'achète que du bio. Et en fait, petit à petit, comme ça, on devient cohérent sur toutes les facettes et je crois qu'on peut rester sur un budget égal, voire inférieur. Donc c'est aussi un intérêt pour le consommateur, surtout sur les sujets d'obsolescence, parce que plus vous allez être obligé de renouveler un produit souvent, plus vous allez perdre de l'argent. Donc c'est pas pratique pour le consommateur.
Vous avez un vieux smartphone dans la poche de votre veste ?
Oui, j'ai un smartphone assez ancien que je garde depuis maintenant plus de 2-3 ans, donc j'espère qu'il tiendra encore.
Comment est-ce qu'on arrive à prouver réellement que les industries font de l'obsolescence programmée alors ? Est-ce que c'est vraiment une politique au sein des différentes industries dans lesquelles on achète de l'électroménager, par exemple ?
Oui, clairement, il y a des pratiques qui sont de l'obsolescence programmée selon nous. On a établi plusieurs rapports, on l'a prouvé à travers deux plaintes qu'on a menées, à travers Epson sur les imprimantes ou Apple sur les smartphones. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les fabricants sont responsables de la durée de vie des produits puisqu'ils l'établissent dans leur cahier des charges. Ils demandent aux ingénieurs une commande et ils leur disent il faut au moins que ça dure 2 ans parce que c'est la durée de la garantie légale. Après, on regarde pas et puis finalement si ça dure pas peut-être que c'est mieux aussi comme ça. Et donc c'est plus qu'un délit et une pratique qui peut être parfois marginale, vraiment très intentionnelle. C'est aussi plus globalement s'intéresser à la durée de vie des produits et faire en sorte qu'ils durent vraiment plus longtemps, qu'ils soient plus réparables et que ça soit vraiment pris à bras-le-corps par les fabricants.
Ouais, mais vous avez réussi à infiltrer finalement les milieux industriels pour être sûr que justement on commande aussi une durée limitée sur un produit ou pas ? Est-ce qu'on en a vraiment la preuve ?
Nous, on a montré que, par exemple, parfois, on avait des puces dans les imprimantes qui calculent non pas l'encre qui vous reste dans une cartouche, mais le nombre de copies que vous faites. Et au bout d'un nombre de copies, on vous dit « Ah, il n'y a plus d'encre ». Et finalement, quand on regarde de plus près, il reste 20 à 40% d'encre. Sachant qu'un litre d'encre, ça coûte 2 000 €, ce qui est énorme, on se rend bien compte que le modèle lucratif, il est là et qu'on se fout un peu des gens. Donc finalement, l'obsolescence programmée peut être caractérisée de certaines manières comme celle-ci sur les imprimantes.
Ouais. Alors, le scandale, c'est effectivement la durée de vie qui s'abaisse de plus en plus. Vous avez prouvé ça très récemment avec un rapport publié la semaine dernière sur les lave-linges. Et vous montrez qu'entre 2010 et aujourd'hui, on a perdu déjà 3 ans sur la durée de vie d'un lave-linge en moyenne.
Oui, ce qu'on observe, c'est que la durée de vie des appareils a tendance à diminuer, les lave-linges en particulier. Et c'est grave puisque ça a vraiment un impact important sur l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact le plus important de la plupart des produits, et notamment des lave-linges, c'est au moment de la fabrication. Donc dès qu'on est obligé de racheter un produit neuf, c'est là qu'on a le plus gros impact écologique. Ça représente 60% de l'empreinte écologique. Donc cette obsolescence accélérée, le fait que les produits durent de moins en moins longtemps, ça a un impact très fort. Et donc c'est ce qu'on dénonce dans ce rapport qui montre que finalement il y a beaucoup de produits qui sont réparables, ça c'est vrai, mais il y a quelques cas qui sont significatifs, qui sont victimes d'irréparabilité volontaire des marques et qui ne se justifient pas selon nous.
Donc là, c'est là-dessus qu'il faut jouer justement, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse maintenant quand même demander une réparation. Il y a certaines enseignes qui ont décidé d'ailleurs de le proposer, là, qui vont le faire dans quelques jours, des enseignes françaises. Il y a tout un état d'esprit à modifier, à bouleverser aujourd'hui à ce niveau.
Oui, clairement, il y a beaucoup de choses à faire et à modifier. Après, on voit qu'il y a quand même une dynamique qui se met en place depuis quelques années. À la fois, la prise de conscience des consommateurs envoie des signaux forts envers les politiques et aussi envers les fabricants, les distributeurs, qui sont le premier contact des clients en magasin et donc qui commencent à se dire il faut qu'on arrive à mieux conseiller, il faut qu'on arrive à mieux réparer les produits parce que les clients nous le demandent et nous, on essaye de les fédérer aussi au niveau citoyen. Et je crois que c'est de plus en plus entendu et on voit des initiatives positives qui se mettent en place et qu'on essaye aussi de dynamiser à travers le club de la durabilité qu'on a monté.
Qu'est-ce que c'est que ce club exactement ?
C'est un club où on essaye de fédérer des entreprises qui sont volontaires, qui s'engagent à essayer d'allonger la durée de vie des produits, de mettre tout en œuvre pour avoir plus de réparations et de travailler en écosystème pour montrer que finalement l'obsolescence programmée, ce n'est pas une fatalité économique, mais qu'au contraire, ça peut participer un écosystème économique et que la durée de vie des produits, ça a un impact positif en cascade. Mmh. Et un produit qui est bien conçu, vous allez pouvoir mieux le réparer. Donc, ça va faire vivre des réparateurs, des vendeurs de pièces détachées. Aussi, vous allez pouvoir le réemployer. Donc, il y a toute une industrie aussi sur le reconditionnement. Et tout ça, ça c'est des emplois locaux et plutôt vertueux.
Mmh. Qu'est-ce que vous attendez de la loi sur le gaspillage, justement, dans ce domaine ?
Alors, voilà, en effet, pour arriver aussi à un vrai déclic des entreprises, parfois elles sont volontaires, tant mieux, ça reste encore minoritaire, donc il faut aussi pouvoir les inciter, voire les contraindre, leur imposer des objectifs. Et donc la loi, les pouvoirs publics ont une grande responsabilité là-dedans. C'est pour ça qu'à Hop, on travaille aussi beaucoup sur le plaidoyer. Et sur la loi, concrètement, qui est en ce moment en débat, on demande beaucoup de choses pour améliorer la conception, l'information aussi du consommateur. Donc on a déjà obtenu au Sénat, donc on est assez content. Mmh. Au Sénat, on a déjà obtenu par exemple un indice de durabilité, parce que le gouvernement prévoit un indice de réparabilité. Donc de savoir que les produits sont réparables, c'est bien. De savoir qu'ils vont durer sans panne de manière robuste, c'est mieux. Donc nous, on demande vraiment d'aller plus loin et on a obtenu ça au Sénat. Un compteur d'usage aussi, par exemple, pour pouvoir mieux suivre en toute transparence la durée de vie de vos produits. Par exemple, sur les voitures, vous avez un compteur kilométrique. Mmh. Vous savez combien vous avez fait de kilomètres. Vous pouvez la revendre, il y a un Argus, etc. Pourquoi ne pas faire pareil sur les lave-linges, sur les ordinateurs? Il y a plein de produits qui peuvent s'y prêter.
Alors, Laetitia Vasseur, il y a plein de questions de la part des auditeurs qui souhaitent dialoguer avec vous. 01 45 24 7000, le mot-clé l'attaque et les réseaux sociaux pour justement évoquer l'obsolescence programmée. On vous retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on passe au vert ensemble avec la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre.
Oui, 16 octobre, date de la création de la FAO, le Food and Agriculture Organization, yeah, en anglais, good. La branche des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1945. Je vous fais un peu d'histoire. Et
merci.
Cette journée s'est transformée en France en 2013 en journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec ce chiffre que vous avez certainement entendu, puisque c'est partout dans les infos depuis ce matin, 10 millions de tonnes d'aliments qui finissent à la poubelle chaque année dans le pays et notamment dans les bennes des supermarchés.
Bonjour tout le monde, je suis de retour au Vival by Casino. Voyons voir ce qu'il y a dans la poubelle. Oula, ça commence bien, il y a des yaourts.
Alors lui, il s'appelle Frigan France sur YouTube et il fait partie des nombreux glaneurs, des anonymes qui fouillent les poubelles des magasins. Difficile à suivre en reportage, hein, j'ai essayé mais la pratique est illégale du coup. Ben, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais donc ils partagent masqués sur internet leur plongée dans les ordures.
Ça a l'air d'être blindé de trucs. Des oignons, des tomates cerises. Oh les bières. Elles sont encore fraîches. Du saucisson. C'est même pas périmé. Il y a encore des œufs dessous là. C'est un truc de fou, il y a trop de trucs là.
Des vidéos réalisées rien qu'entre cet été et le début de cette semaine, avec parfois presque un côté chasse au trésor.
Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tablettes de chocolat au lait noisette.
Autre trouvaille devant un Leclerc Express.
Des Tic Tac. Mélisse citron. Ils sont encore emballés. Ah, y en a plein. Il y en a plein. Oh, le score de Tic Tac.
Et le jackpot.
Oh, oh les gars, il y a encore des chips. 2 paquets de chips. 3.
Et il va compter longtemps, écouter à l'arrivée.
200 paquets de chips.
Oui, plus de 200 paquets de chips à la benne, qui ne sont pas périmés en plus pour certains. Il peut s'agir de gammes de produits qui sont déréférencés parce qu'ils ne marchent pas ou que c'est plus la période. L'exemple typique pour ça, c'est Noël, vidéo d'autres glaneurs.
Tout ce que vous n'avez pas acheté pour Noël, les chapons, le foie gras, tout est là. C'est un peu pour vous montrer les horreurs qu'on trouve. Le gaspillage alimentaire. Donc voilà, si on pouvait tous réfléchir à notre façon de consommer, ça éviterait peut-être ça.
Et c'est souvent pareil avec les chocolats de Pâques.
Et pourtant, il y a une loi contre le gaspillage, on l'évoquait Camille.
Oui, qui date du 11 février 2016. Elle impose aux magasins de plus de 400 mètres carrés, les moyennes et grandes surfaces, donc de valoriser leurs invendus en les donnant par exemple, et c'est défiscalisé, à des associations. C'est bien sur le papier, plus compliqué dans les faits, en témoigne Verena, glaneuse depuis 3 ans à Lille, et doctorante en géographie logistique pour justement justement lutter contre le gaspillage alimentaire.
Le seul problème, c'est que les associations, elles n'ont pas forcément les moyens logistiques d'accueillir ça. Elles n'ont pas les moyens de stockage, elles n'ont pas les moyens de transport. Et à côté, il y a la réglementation sanitaire qui est contraignante.
Entre autres, ne pas donner les aliments dont la date de péremption arrive dans les 2 jours. Et puis, tous les dons ne trouvent pas preneur. Exemple.
Il y a un magasin, un Monop, dans lequel je fais mes récup régulièrement, qui est récemment, il y a genre 6 mois, est passé au panier Too Good To Go. Et du jour au lendemain, on a cessé de voir des invendus dans des sacs poubelles. Par contre, on retrouvait des invendus dans des petits paniers. Parce que tous les paniers qui n'étaient pas pris, ils finissaient à la poubelle. Mm-hmm. Alors qu'en façade, c'était « oui, nous sommes sur Too Good To Go, nous contribuons à réduire le gaspillage alimentaire, etc. etc. »
Sans parler des magasins qui continuent de mettre de la javel alors que la loi l'interdit formellement. Verena l'a constaté il y a quelques jours dans un casino-shop du centre de Chambéry, photo à la pluie. Le groupe a répondu et assure qu'il va faire le nécessaire pour comprendre les raisons de cet incident. Je cite.
Parce que certains glaneurs, au-delà de dénoncer le gaspillage, se servent de leur récup pour se nourrir, même si elle est périmée d'ailleurs.
Oui, car les dates limites de consommation et d'utilisation optimales ne veulent pas forcément dire que c'est plus bon à manger, hein, vous le savez. Des précaires comme notre youtubeur Frigan, qui signifie d'ailleurs être pour le gratuit, un mode de vie alternatif mais souvent subi, ou Ambre que j'ai eu au téléphone, il organise même des ateliers pour savoir bien glaner avec son collectif Poubelle en Or et il a du mal à dire, lui, qui est fautif.
Même si ça me nourrit en partie, je trouve ça scandaleux. Donc moi, évidemment, je suis engagé contre le gaspillage, mais pour moi, un supermarché ne peut pas ne pas gaspiller. C'est vraiment un problème beaucoup plus général de taille des structures et surtout le fait que ça soit des circuits longs. C'est pas une machine bien rodée où on extrait ce qu'il faut et puis ça va dans le ventre des gens. Non, il y a une tellement de pertes entre deux. Le problème, il est dans le système de production. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés par le gaspillage, mais c'est dur de trouver les coupables, c'est le problème.
Si ça vous scandalise et que vous en voulez aux grandes enseignes, eh bien je vous donne une dernière information. Les champions du gaspillage, c'est nous, à la maison. Hein. 30 kilos par personne et par an, dont 7 kilos de produits encore emballés. Impact écologique majeur, mais aussi social, puisque je rappelle qu'une personne sur 10 souffre de la faim en France.
Voilà, journée mondiale de l'alimentation. Et cette chronique à réécouter sur franceinter.fr.
Laetitia Vasselser, on peut faire le parallèle avec l'obsolescence programmée quelque part. Les dates limites, par exemple, c'est de l'obsolescence programmée, non?
Oui, ça peut être considéré comme tel. Et c'est vrai que ce gaspillage, c'est écœurant sur l'alimentaire. Ça l'est aussi sur le reste de nos produits. Et on constate, nous, beaucoup d'invendus et de produits qui finissent en déchetterie, alors qu'ils sont encore tout à fait fonctionnels parfois. Et c'est la même logique qui s'applique et sur laquelle il faut vraiment qu'on agisse.
Il y a un combat commun, là, vraiment. Hein.
Tout à fait.
Allez, on se retrouve dans un instant, Laetitia Vasseur, pour parler de l'obsolescence programmée avec les auditeurs de la Terre au Carré.
Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete. No quieres que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo he puesto todo el número 7. Si me caigo que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. 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 Yo por ti, tú por mí.
Póngalo billete.
Por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Tus ojos me brillarían y es que ¿quién lo diría? Que en la esquina este sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían.
Somos dos cantantes como los de antes.
ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
La Rosalía. Mira, ¿quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría?
C'était Rosalía et Ozuna sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Allez, on part au standard et Marie est avec nous pour dialoguer avec notre invitée Laetitia Vasseur. Bonjour Marie.
Bonjour, voilà, je m'interroge simplement sur le point de savoir si ce que l'on considère comme de l'obsolescence programmée ne serait pas tout simplement la résultante d'un petit prix initial. Simplement à titre d'exemple, je me suis installée à la fin de mes études en 1981, ce n'est pas hier, j'ai acheté une machine à laver. Je ne sais pas si je peux dire à l'antenne de quelle marque.
Oh, c'est pas nécessaire.
Elle a duré c'était une machine à laver de type de marque 1000.
Ah ben
elle
voilà.
A duré jusqu'en 2007. Je l'ai changée pour une nouvelle 1000 en 2007, qui dure toujours et qui ne manifeste aucun signe de fatigue. Au passage, pendant une bonne quinzaine d'années, la première a tourné 3 fois par jour, puisque nous étions 8 personnes à la maison. Donc, c'était
une
grande famille. Depuis 1981, j'ai eu un four de Dietrich, puis un four 1000, qui marche depuis 2008, ce dernier. J'ai un congélateur et une cave à vin qui sont des Lib Air et qui fonctionnent depuis très exactement 31 ans.
Bravo.
Depuis 1988. Et enfin, j'ai eu 2 lave-vaisselles depuis 1981. Donc un 1000, puis un 6 minces.
On a voilà. Toute la
merci
liste, Marie.
La
merci, Marie, pour la pub.
Il vous remercie.
Alors, on va répondre à votre question, Laetitia Vasseur, sur les petits prix dont parlait Marie à l'instant.
Oui, Marie, en fait, a raison de montrer aussi que des produits qu'on achetait en 1980, par exemple, étaient souvent plus durables qu'aujourd'hui. Et après, il y a des grands écarts entre les marques. Il y a des marques qui sont beaucoup plus fiables que d'autres. Mm-hmm. Mais je déconseille à Marie peut-être d'acheter un nouveau lave-vaisselle aujourd'hui, parce qu'elle serait certainement un peu déçue sur la durée de vie, parce que c'est ce qu'on montre, en fait, c'est qu'au fil du temps, on a une moins bonne qualité des composants et aussi simplement d'avoir des produits qui vont vraiment être robustes dans le temps.
Ouais.
Donc il y a un problème de prix, c'est sûr, mais
il y a un problème de qualité,
intrinsèque. Aussi.
Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a Philippe sur Twitter qui demande s'il existe une liste de marques et de fabricants qui font plus que les autres de l'obsolescence programmée.
Oui, bah, j'ai une bonne nouvelle pour lui, c'est-à-dire qu'on a mis en place un site avec HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui s'appelle Produits Durables, au pluriel, et sur lequel on peut trouver une liste des marques qui sont plus durables en fonction des retours des consommateurs et des professionnels.
On a un message de Richard qui est intéressant, il dit « J'ai du mal à admettre ce concept d'obsolescence programmée qui, au sens strict, signifierait que tous les appareils seraient pourvus d'un dispositif de mise en panne, un peu trop complotiste, dit-il à mon avis. Donc, s'il s'agit d'une question de qualité, pourquoi ne pas plutôt dire fabrication de basse qualité. C'est exactement ce que vous évoquez, hein, Laetitia Vasseur. Hein.
Oui, l'obsolescence programmée, c'est un peu le haut de l'iceberg qui cache le reste. Enfin, c'est une pratique, clairement, délictueuse et qui est relativement marginale. Mais derrière, ça cache en effet ce que votre auditeur appelle la mauvaise qualité, le fait que aujourd'hui, les entreprises vont plus se concentrer sur peut-être la performance et beaucoup moins sur la durabilité. Et c'est ce qu'on dénonce parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu.
Oui, oui, il y a d'ailleurs Philippe sur Facebook qui dit « Quel intérêt pour un industriel de programmer la fin de vie de son produit, le client insatisfait ira chez le concurrent. J'ai du mal à croire à cette obsolescence programmée.
Oui, parce que en fait, ce qu'on observe aussi, nous, sur les imprimantes ou beaucoup de produits, c'est que les marques se suivent. Hein. La concurrence suit une tendance. Et donc, des pratiques chez les uns peuvent se retrouver chez les autres. Et donc, c'est difficile aussi parfois d'incriminer une marque en particulier, presque.
Ouais.
Et c'est une tendance générale contre laquelle on se bat, parce que, à la fois pour les consommateurs comme pour l'environnement, c'est pas possible.
Ouais. Et puis, c'est compliqué de changer de marque aussi. Hein. On le voit bien avec les smartphones. Lorsqu'on est attaché à une certaine marque, on va en acheter des générations et des générations. génération, sachant même qu'il y a une obsolescence programmée sur les produits.
Après, il y a des marques aussi qui font tout pour que vous soyez un petit peu contraint de rester dans leur giron.
Bien sûr.
Et ça, c'est aussi une forme d'obsolescence.
Mais d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, vous aviez un vieux smartphone de 2-3 ans, mais moi, je trouve pas que ce soit très vieux pour un téléphone, même pour un smartphone.
Oui, le dernier était victime d'un accident, donc j'ai été obligée de le renouveler. Mais vous savez, la durée de vie moyenne d'un smartphone, c'est 18 mois. Donc,
Dominique est en ligne avec nous. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour, Mathieu. D'abord, bravo pour vos émissions.
Merci.
Et voilà, j'ai deux choses à dire. Alors, je voulais savoir, la première, c'était comment faire savoir aux entreprises, aux marques, qu'on est scandalisé par l'obsolescence programmée. En ce qui me concerne, par exemple, d'un lave-linge, ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième, comment se fait-il que un lave-linge, pour ne pas le citer, de la marque AEG, qui coûte 700 €, quand on veut faire une réparation au bout de 5 ans, j'utilise le lave-linge même pas une fois par semaine en moyenne. Et comment se fait-il que la réparation coûte 550 €, c'est-à-dire presque le prix du lave-linge? Alors là, on se pose la question en tant que consommateur, est-ce qu'on fait réparer avec les risques d'avoir de nouvelles pannes?
Ouais, très bonne question, Dominique. Laetitia Vasseur vous répond. Alors d'abord sur le recours pour le consommateur.
Oui, tout simplement, je pense que vous êtes, Dominique, bienvenue à HOP, halte à l'obsolescence programmée, parce que c'est vraiment notre mission de fédérer les citoyens pour faire entendre notre voix commune auprès des politiques et des fabricants. Sur la réparation, vous avez tout à fait raison, et c'est un enjeu principal, un des volets de l'obsolescence programmée. Et ce qu'on demande clairement en ce moment dans la loi en particulier, c'est de favoriser la réparation, que ça soit rendu moins cher. Et notamment, on a obtenu un fonds de la réparation où les entreprises vont être obligées de contribuer pour rendre la réparation moins chère pour les consommateurs. Et puis après, il y a toute la question des pièces détachées et de la capacité à réparer. Parce que c'est un produit qui ne va pas être démontable ni remontable, où tout va être soudé. Vous allez soit pas pouvoir la réparer, soit ça va prendre beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent.
Alors justement, par rapport à ça, Lise sur l'application France Inter nous dit, on parle beaucoup des industriels, mais beaucoup de pannes viennent du fait que les gens n'entretiennent pas leurs produits. Est-ce que c'est vrai ça, Laetitia Vasseur?
Oui, c'est vrai aussi. C'est ce qu'on a montré dans notre dernier rapport sur les lave-linges. Il y a beaucoup de pannes qui peuvent être évitées en faisant des petits gestes, parfois qu'on n'a pas forcément en tête, mais il y a plein d'astuces. Par exemple, sur les lave-linges, il est recommandé de le faire tourner à vide, à haute température, avec un petit peu de vinaigre par exemple, pour bien nettoyer et enlever les bactéries, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui vont permettre d'allonger la durée de vie de ces équipements, ou de bien enlever aussi tout ce qui va être la crasse, etc. C'est très important pour éviter d'obstruer les pièces détachées. Et donc, par exemple, là, sur le site Produits Durables, encore une fois, vous avez plein de conseils et d'astuces sur plein de produits, comme les ordinateurs jusqu'au lave-linge, savoir quoi faire.
Pour les smartphones, il faut passer des appels à vide aussi, ou envoyer des SMS vides pour nettoyer l'appareil. Non, ça ne marche pas, ça, évidemment.
Ça ne marche pas.
Bon, excusez-moi. Luc est en ligne avec nous. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Je voulais apporter mon témoignage effectivement sur la notion d'obsolescence programmée et vous expliquer une situation que j'ai rencontrée la semaine dernière. Dans le cadre de mon travail, je suis en charge de la maintenance de nos équipements et il m'est arrivé la semaine dernière de devoir décider d'acheter un équipement en entier neuf plutôt que d'acheter la pièce qui était défectueuse, pour la simple et bonne raison que la pièce détachée était deux fois plus chère que l'équipement à neuf.
Incroyable. Laetitia Vasseur.
Oui,
vous citiez cet exemple tout à l'heure, c'est inouï quand même, non?
Exactement, c'est incroyable qu'on en arrive là. Et il y a une autre mesure aussi dans la loi à laquelle on travaille beaucoup, c'est l'indice de réparabilité.
Oui.
Et donc il y aura plein de critères qui seront pris en compte pour que les fabricants renseignent si un produit est réparable ou pas, pour qu'on puisse avoir cette information au moment de l'achat. Et la question du prix est centrale et on se bat pour qu'elle y soit.
Il y a Philippe qui nous dit qu'il aimerait mentionner aux auditeurs l'existence en France du réseau national des repères café, qui depuis 2013 lutte contre l'obsolescence programmée avec ses milliers de bénévoles qui apprennent aux gens à réparer leurs objets quotidiens aussi pour ne plus les jeter. Le mouvement est né en Hollande en 2009.
Oui, les Repair Café, c'est vraiment très bien parce que ça permet de réparer gratuitement un certain nombre de produits. Et donc, il faut vraiment aller les voir. Et ça montre aussi que chacun peut faire sa part contre l'obsolescence programmée, même en tant que citoyen. Il faut avoir le réflexe de réparer, de revendre sur le marché de l'occasion, de racheter ou d'avoir des produits qui sont donnés. C'est très important aussi.
Et sur les prix, vous en parlez. Est-ce que ça veut dire que quand on achète quelque chose de pas cher, il est forcément de plus basse qualité, comme vous disiez? Donc, ça veut dire qu'il faut acheter des choses cher? Comment ils font les gens qui n'ont pas les moyens?
Alors, c'est une vraie problématique parce que si vous achetez pas cher, il y a toutes les chances que ça ne dure pas parce que les composants sont souvent de moins bonne qualité. Mais si vous achetez cher, c'est pas toujours dit que ça va non plus durer. C'est pour ça qu'on demande un indice de durabilité pour avoir des informations objectives sur la durabilité parce que le prix n'est pas suffisant.
Merci Laetitia Vasseur. Vous publiez avec Samuel Sauvage du jetable au durable et c'est aux éditions Alternatives et vous êtes donc membre et directrice de l'association Hop. Merci beaucoup d'être venue nous en parler.
France Inter. La Terre.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Étienne, un auditeur ornithologue qui va nous parler de grues cendrées. Et puis enfin, nos invités découvertes reviennent d'une expédition au large de la Guyane qui a permis d'étudier un écosystème marin inédit. Maud de Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Nouveau reportage de votre série aujourd'hui sur la Méditerranée. On parle tous les étés de la pollution des eaux de baignade à Marseille et la lutte contre cette pollution, eh bien, ça passe aussi par l'éducation.
Absolument. Je vous propose aujourd'hui un zoom sur une ONG qui milite pour la préservation des littoraux, la Surf Rider Foundation. Depuis 5 ans, l'antenne marseillaise se délocalise à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, à l'occasion de la Fête de la Science, pour parler qualité des eaux à des enfants. Rencontre avec Thibaut Gaillard, chargé d'éducation au sein de l'ONG, quelques minutes avant l'arrivée d'une classe.
On a ramené un petit peu de matériel de laboratoire dont on se sert tous les jours. Ouais, vous pouvez fixer sur les deux.
Dans un bocal, il y a de l'eau bleue. Dans un bocal, il y a des mégots de cigarettes.
Là, on a l'eau qui a été prélevée dans l'eau du port de la Seyne-sur-Mer, qu'on va analyser avec les enfants.
Tout ça, c'est pour de faux?
Tout ça, c'est pour de faux, bien sûr.
Qu'est-ce que vous allez leur apprendre?
Ce que c'est que la pollution de l'eau, plus particulièrement la pollution bactériologique, comment la mesurer, quels sont les dangers, quels sont les bons gestes pour sauvegarder l'environnement, le littoral et la mer en général.
Ça y est,
c'est le débarquement. Alors, je m'appelle Thibaut. Vous allez bien?
Oui.
Alors moi, je fais partie d'une association, Surf Rider Foundation. Une grosse partie de notre travail, c'est de lutter contre la pollution, les déchets qui sont déposés un petit peu partout, comme les cigarettes sur les plages. On va travailler sur un autre type de pollution. Des mégots de cigarettes.
Alors là, Thibaut montre les petits bocaux qu'il a préparés tout à l'heure.
Des bâtons de sucette.
C'est pas des bâtons de sucette.
Oui, je sais. C'est pour les oreilles,
les cotons-tiges.
Les cotons-tiges.
Du sirop. De l'eau colorée.
C'est de l'eau colorée, mais ça représente quoi comme pollution?
Les microbes. C'est les microbes qui sont dans l'eau.
C'est les bactéries qui sont dans l'eau. T'avais presque raison. Comment elles se retrouvent dans la mer, ces bactéries, à votre avis? Tous les petits êtres vivants qui se retrouvent dans la mer, mais qui devraient pas y être. Ils viennent de vous, ils viennent de moi. Tous les jours, on en produit.
C'est l'urine.
Les pipis.
C'est l'urine.
Et ben ouais. Donc tout ça va dans un endroit qui s'appelle une station d'épuration. Vous connaissez ce mot? Sauf qu'une station d'épuration, ça a une petite taille quand même. Vous imaginez quand il y a un énorme orage, l'eau des stations d'épuration, elle déborde. Et plutôt que de déborder dans la rue après, elle est renvoyée, ce cas-là, directement dans la mer. Alors, on veut faire un peu de science quand même, hein. Je sais pas vous.
Donc là, Thibault va faire une simulation d'analyse d'eau. Avec les avec enfants. De l'autre côté de la table, il y a Thibaut avec des pipettes, une boîte de pétri, des échantillons d'eau.
Alors là, on a de l'eau du port et on va prendre de l'eau propre et on va mélanger les deux. Il y en a une qui va tenir la pipette graduée dans l'eau et l'autre qui va soulever le piston pour arriver à 5.
Mais Mathilde, le tient pas. C'est moi qui le fais. Vas-y, tire.
Non, Mathilde, jusque-là.
Vas-y, stop.
Voilà.
Stop.
On va remercier les filles, on les applaudit.
Donc y a différentes étapes. Il y a l'ensemencement, l'incubation, la lecture et l'interprétation des résultats. Tout ça avec toujours quelques petits messages que Thibaut fait passer.
Donc là, je tiens un flacon qui contient de l'eau transparente. Est-ce que vous croyez que cette eau est propre ?
Non.
Pourquoi non ?
Même si elle est transparente, c'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'il y a dedans.
Ouais, complètement. Faut pas se fier à ce qu'on voit. Des fois, quand on va voir la mer, elle est super belle. On a très 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 envie de se baigner. Mais il faut quand même se poser la question, est-ce qu'elle est propre ? La seule chose qui est vérifiée sur les plages aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a de la pollution bactériologique ou non. S'il y a des plastiques dans la mer, c'est pas un critère pour fermer la plage. Malheureusement, encore aujourd'hui, c'est pas vérifié. Du coup, à la fin, on mesure si l'eau elle est polluée par les bactéries. On le dit aux municipalités qui va ouvrir ou non la plage. Voilà, un peu une petite partie de notre métier tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça vous a plu.
Béatrice Parsi, maîtresse de la classe de CM2, l'école Sainte-Thérèse. J'ai choisi des thèmes d'abord proches d'eux, parce qu'ils sont encore petits, pour que ça résonne et que ça prenne du sens. Voilà. Et la mer, évidemment, ça a du sens ici. Parce que je pense que c'est humain, en fait. Quand on est petit, on a envie de ça. Alors quand on grandit, parfois, on oublie. Mais je pense que c'est intrinsèque. C'est, bah oui, la survie de l'espèce, ça fait partie des choses qui sont... naturel, je pense.
Est-ce que ça vous a plu ?
Oui !
Qu'est-ce que vous avez appris ?
Comment faire pour savoir si l'eau, elle est polluée ou pas ? La mer, on la prend pas pour une poubelle parce que les gens, ils croient qu'après, les déchets, ils disparaissent, alors que non, les animaux, les poissons, les mangent. Eux, ils meurent et nous, on va manger du poisson.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous baigner et de voir que la mer était sale ?
Oui. Oui, mais c'est souvent au bord, en fait, hein, que c'est pollué, parce que c'est là où les gens, où il y a beaucoup de zones de baignade, c'est là où les gens se baignent le plus. Et en fait, c'est le caca qui pollue.
Au revoir.
Donc c'est sans doute cette histoire-là qui les aura le plus marqués, Maud, mais Thibaut, lui, a délivré tous ses messages.
Hein. Et oui, Surfrider estime aujourd'hui que les analyses de qualité de l'eau sont insuffisantes, avec des contrôles opérés uniquement l'été, sur des critères bactériologiques seulement. Petite parenthèse d'ailleurs, juste pour vous dire que les vraies analyses prennent 48 heures, d'où évidemment ici il s'agissait de fausses. L'ONG, elle mise beaucoup sur ses ateliers d'éducation à l'écologie. Elle estime qu'une personne sensibilisée en touchera une dizaine d'autres.
Dernier reportage demain avec vous, Maud.
Oui, je vous parlerai d'une association qui récupère les filets de pêche tombés au fond de la mer.
Merci beaucoup, à demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Étienne est avec nous en ligne. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes ornithologue bénévole et président de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO de Champagne-Ardenne. Et bientôt va commencer la 12e édition de la fête de la grue et de la migration sur le lac du Der en Champagne. Les dates exactes ?
C'est samedi du 19 au 27 octobre. Voilà. Donc ça commence samedi si je ne me trompe pas.
Le lac du Der, Chantecoq, hein, c'est son vrai nom ?
Oui, c'est ça. Chantecoq en référence à un des trois villages qui a été englouti au moment de la réalisation de ce grand lac réservoir.
Oui, parce que c'est un lac artificiel en réalité. Hein.
Oui, complètement. En fait, ça a été fait par l'homme pour l'homme pour le protéger des inondations de la Seine. Il y a eu des grandes crues, dont la plus célèbre est celle de 1910 qui a failli engloutir le zouave du pont de l'Alma.
Oui. Complètement.
Et on a cherché des endroits où on pouvait stocker de l'eau pour contenir les eaux des affluents de la Seine et de la Seine elle-même. Et les décideurs de l'époque ont jeté leur dévolu sur la Champagne humide, qu'on appelle humide non pas parce qu'il pleut plus qu'ailleurs, mais parce que son sol est très argileux. C'est une grosse, il y a plus de 30 mètres d'argile très compacte, très imperméable, qui stocke l'eau en surface.
Ouais, et les oiseaux, donc, Étienne, ne s'y sont pas trompés. C'est-à-dire que très rapidement, au moment de la création du lac, on a vu arriver tout un tas d'oiseaux et de très nombreuses espèces.
Oui, alors effectivement, la nature a vite pris possession de cet espace qui se vide et qui se remplit. Donc il y a deux grandes crues et en fait ça découvre des grandes vasières au moment de la vidange du lac. Et effectivement aujourd'hui, on compte à peu près 350 espèces d'oiseaux, si je ne parle que des oiseaux. 350 espèces, c'est à peu près la moitié de tout ce qu'on peut voir à l'échelle européenne.
C'est énorme, 350 espèces.
C'est beaucoup, ouais.
Et les grues donc font partie de celles qui sont les plus présentes.
Oui, alors il y a deux espèces qui sont emblématiques. Le pygargue à queue blanche, qui est un aigle nordique qui vient notamment en hiver et qui niche pour la première année, pour la première fois cette année sur le territoire. Et puis donc les grues, donc qui elles nichent dans le nord de l'Europe. Et pour celles qui nous concernent, pour le couloir de migration qui nous concerne, ce sont plus particulièrement des grues qui viennent de Suède, de Norvège, de pays baltes, des pays baltes et puis d'Allemagne. Et en fait, elles entament leur migration à cette époque-là de l'année, puisqu'elles ont fini d'élever les jeunes, et elles traversent la France en diagonale pour aller en Aquitaine et pour le plus gros des troupes en Espagne, et pour certaines d'entre elles, elles traversent le détroit de Gibraltar et elles vont jusque en Afrique du Nord.
Donc c'est un hotspot pour les grues entre autres, mais pas seulement. Donc elles font escale, c'est ça, au Larc du Der, et
oui,
elles restent combien de temps avant de repartir?
Oui, pardon, je vous coupe. Elles ont toujours traversé la France en suivant ce couloir-là, et la création du lac fait qu'aujourd'hui, il y en a certaines qui restent même en hiver, c'est-à-dire qu'elles stoppent leur migration. Le lac a eu une influence sur le trajet migratoire. Donc c'est une escale très privilégiée. Il y a près de 300-350 000 grues qui stationnent pour certaines peu de temps, mais pour d'autres plusieurs jours, et pour certaines donc tout l'hiver.
350 000 grues. 300, oui. C'est, en ce moment, par exemple, il y a 350 000 grues.
On a fait notre premier comptage dimanche dernier, et donc notre premier comptage, on a compté un peu plus de 46 000 grues.
C'est déjà pas mal.
Et aujourd'hui, on est presque à 70 000.
Ouais, et ça fait beaucoup de bruit, paraît-il, Étienne, hein, les grues.
Oui, alors c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est singulier, c'est qu'en fait il y a beaucoup de migrations qui sont diffuses, pas très visibles. Par contre, la grue, elle migre en groupe et en gros groupe, donc on peut voir des grands vols en V qui strient le ciel. Mmh. Et c'est un oiseau qui est très bruyant, effectivement. Elle a un cri, d'où son nom, la grue. Elle a un cri qui est très guttural, qu'on entend de très très loin. Et voilà, quand elle migre par plusieurs centaines d'individus ensemble, ben ça fait beaucoup de bruit, effectivement.
Alors, cette fête de la grue et de la migration, d'ailleurs, je vous dis bravo, je trouve que le titre est très bien trouvé. C'est aussi l'occasion de sensibiliser le public à la nature, à ces oiseaux, pour leur dire quoi, au fond, Étienne ?
Ben, en fait, on s'est aperçu très vite qu'effectivement, ce phénomène avait un intérêt très important et qu'on avait beaucoup de gens qui venaient sur site. Et on s'est dit qu'il fallait en profiter pour essayer de sensibiliser les gens, et notamment sur leur comportement. C'est-à-dire qu'on a une chance on a une belle chance d'avoir ces espèces qui viennent sur le site. Mais si au niveau de nos comportements, on peut avoir des dérangements qui peuvent être préjudiciables. Mmh. Donc on accompagne les gens en leur disant que dans leur comportement, il faut être discret, il faut utiliser certains aménagements qui sont faits pour éviter des dérangements. Et voilà, on essaye de passer tout un tas de consignes, de conseils pour que les équilibres soient maintenus. Mmh.
Donc on pourra aller les observer, et pour les lève-tout en particulier, je crois, hein.
Oui, alors on fait ce qu'on appelle des levées de grues, et une animation qui est toujours très très appréciée. Il faut se lever tôt, effectivement, puisqu'on donne rendez-vous aux gens avant le lever du jour. Quand on arrive, le site en général est silencieux, on peut encore entendre une hulotte ou un renard qui glapit, et puis progressivement, quand le jour va se lever, les grues vont se réveiller, il va y avoir un bruit qui va envahir la cuvette, et quand elles décollent, puisqu'en journée elles vont dans la campagne environnante pour manger, elles passent les digues, et donc il y a une ambiance comme ça de ferveur qui est toujours impressionnante et qui impressionne beaucoup les visiteurs pour la première fois, mais pour d'autres fois, parce que on s'aperçoit que les gens reviennent d'année en année.
Bon.
Le spectacle est renouvelé tous les jours.
Et vous savez quoi faire ce week-end, Camille ?
Un lever de grues.
Un lever de grues.
Et balai dans le ciel ensuite.
Voilà, ce sera du 19 au 27 octobre, cette fête de la grue et de la migration au Larc du Der en Champagne. Merci beaucoup. Il y a tous les contacts évidemment sur le site de la Terre au Carré. Bonne journée, Étienne. Merci à vous.
Merci, au revoir.
À bientôt. Dans un instant, nous partons en Guyane pour parler d'un écosystème inédit qui a été découvert par des chercheurs.
Tu traverses le faubourg sans un mot, sans un bruit. tiens le jour, te réveille en hurlant la nuit. La vie n'est pas si brève, c'est nous qui nous croyons immortels. Tu chantes le No Pussy Blues dans les chambres d'hôtel. Les gens tirent aux fenêtres pour passer le temps. Et tes amis te demandent de choisir.
C'était le phlegmatique à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ça, c'est quoi, des éponges?
Ouais, ça, c'est des éponges.
Je pense que c'était quand même un...
Ah oui, ça, je vois, ça, on voit que c'est bien l'embrassin, là, déjà, ça, ça... Là, on voit bien l'ophure, tu vois, qui entoure, là, la partie de la bouche, d'ailleurs.
Et nous sommes au large de la Guyane. Grâce à vous, Serge Plane et François Chartier, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. Serge Plane, vous êtes chercheur CNRS au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement de Perpignan. Et François Chartier, vous êtes le responsable de la campagne Océan de Greenpeace France. Et vous revenez ensemble d'une expédition donc au large de la Guyane qui a permis d'étudier un écosystème inédit. C'est assez rare de voir Greenpeace associé au CNRS, Serge Plane.
Oui, c'est même une première, ouais. Mais parce que on était dans un contexte qui s'y prêtait particulièrement, on avait la volonté, je dirais, commune, finalement, d'aller à la découverte de l'environnement et d'un environnement nouveau et d'un contexte nouveau. Donc, dans ce contexte-là, je dirais, le CNRS a pleinement sa place en tant qu'expertise scientifique.
Ouais, François Chartier, donc, ce lieu, il était inédit du côté de son exploration. Comment est-ce que vous avez décidé, justement, d'y aller et de plonger?
Alors, très rapidement, bon, ça a été, c'est un lieu, enfin, le récif de l'Amazone dans sa partie brésilienne, en tout cas puis guyanaise, sa présence n'a été confirmée qu'il y a 3 ans par des scientifiques brésiliens. Et en fait, il y a eu une menace environnementale qui a été tout de suite identifiée. C'est pour ça qu'on est venu nous voir, parce qu'il y avait des projets d'exploration pétrolière, notamment Total, côté brésilien. Alors, on a réussi à faire annuler ces projets, notamment par le travail scientifique qui a été mené, par la démonstration de la présence de cet écosystème. C'est pour ça que l'agence de régulation brésilienne a finalement annuler les licences, aussi par la menace qui existait en termes de marée noire pour la Guyane. Et puis on y est retourné, et au-delà de cette menace pétrolière de Total spécifique, bah la menace pétrolière, elle continue à exister au Brésil, mais pour nous, il y a un véritable enjeu et message à faire passer sur les écosystèmes à conserver, sur la nécessité de créer des aires marines protégées. Et là, le récif de l'Amazone, c'est un cas parfait pour illustrer cette demande.
Et ce récif, il est à combien de mètres de profondeur ?
Alors c'est un récif qui se situe, je dirais, juste en bordure du plateau continental, et donc l'on a les premiers éperons aux alentours de 80 mètres, avec une grande partie qui est à 100 mètres et en dessous d'ailleurs. Bon, nous, dans le terme d'exploration, on s'est arrêté à 120 mètres, mais il descend en dessous.
Et c'est facile d'aller jusqu'à même 100 mètres pour observer ?
Alors c'est compliqué. Déjà, ça demande une plongée, des plongées très encadrées d'un point de vue, je dirais, sécurité, d'une part. Mais la zone là est particulièrement compliquée parce que c'est une zone où il y a énormément de courant, il y a une eau qui est très turbide et surtout très chargée en plancton parce qu'on est finalement aux sorties de l'Amazone. Oui, finalement, oui. L'eau en Guyane est beaucoup plus chargée que directement aux sorties de l'Amazone parce qu'il y a un courant qui remonte remonte toutes ces eaux, je dirais, sur la côte guyanaise. Et donc, on est sur des courants qui sont très violents. Il faut imaginer, sur une période de palier de décompression de 3 heures, on avait des dérives qui étaient entre 12 et 15 kilomètres.
Ah oui, quand même. Donc il fallait repérer les plongeurs pour ne pas les perdre.
Absolument, c'était un des gros challenges en sécurité.
Ouais. Alors François Chartier, c'était quoi l'intérêt d'aller sur ce site-là en particulier ? C'était vraiment un écosystème à découvrir ?
Oui, alors ça c'est l'intérêt scientifique, c'est-à-dire que on avait 6 photos de l'année dernière parce qu'on avait des problèmes techniques avec le robot. On a bien compris qu'il valait mieux y aller avec des gens, avec des humains pour avoir un travail efficace. Et donc il y avait tout à découvrir, tout à faire, notamment en termes d'échantillonnage, pour pouvoir justement comprendre scientifiquement. Mais ça, c'est le travail qui va être fait par le CNRS dans la suite. Et puis pour nous, on est dans un contexte politique chargé pour les océans. Bon, d'abord on a bien vu avec les rapports qui succèdent qu'il y a une crise des océans, il y a une crise du climat. Et avec la crise des océans, c'est une crise des climats, du climat aussi. Et il y a un calendrier politique avec un traité sur la haute mer qui est en négociation, donc qui peut permettre la création d'aires marines protégées en haute mer. Et puis, ne serait-ce que la semaine prochaine, on va discuter la stratégie française des aires marines protégées. Donc pour nous, c'est dans ce calendrier politique qu'on se situe, avec l'objectif de créer 30% de réserves marines pour l'ensemble des océans d'ici 2030. Oui. On en est très loin, et donc c'est un exemple pour porter justement ce message plus politique.
Alors on voit vraiment le discours politique de Greenpeace et puis le discours scientifique du CNRS, Serge Plane, parce que l'intérêt de ce lieu, c'est vraiment de découvrir la diversité qui s'y trouve.
Oui, le discours scientifique, je dirais pas ça c'est un discours scientifique, mais l'intérêt scientifique de cette zone, c'est d'abord qu'il n'y avait jamais eu de plongée vraiment réalisée dans cette zone-là, donc c'est un écosystème avec une découverte nouvelle. On s'est aperçu d'ailleurs que les assemblages, c'est-à-dire la communauté d'espèces qui le structure, est particulièrement originale. On trouve des espèces qui viennent plutôt de la zone abyssale, on trouve des espèces qui viennent plutôt de la zone côtière. Donc on est un peu sur une espèce de patchwork, de mélange de différentes faunes. Donc très très intéressant scientifiquement. L'opportunité d'avoir des échantillons, on a ramené plus de 2500 échantillons d'organismes divers.
En cours d'analyse.
En cours d'analyse actuellement. L'opportunité d'avoir des images également pour voir comment sont organisés, parce que souvent ces écosystèmes un peu profonds sont analysés au travers de dragages, et donc on ne sait pas exactement comment c'est structuré sur le fond. Donc pour nous, c'est à la fois en termes d'images, en termes d'échantillons, vraiment quelque chose de très original et très intéressant scientifiquement.
Et alors vous nous dites des choses qui viennent des abysses, etc. Vous pouvez être plus précis dans les espèces que vous avez vues tout au fond ?
Qu'est-ce qui vit dans ces eaux turbides, oui, justement ?
En fait, la particularité de cet écosystème, c'est qu'on est sur un ancien récif corallien, ancien, c'est plus un récif corallien aujourd'hui, c'est un récif corallien qui est en période d'eau basse, de mer basse, qu'on appelle, en période glaciaire, en fait. Et du coup, on a des résidus un peu de tout, c'est-à-dire qu'on va avoir des résidus de ce qui est peut-être un ancien récif corallien, et puis des résidus ou des colonisations récentes des zones plus profondes. Quand on arrive à 80 mètres, on est dans le noir complet. Ben donc oui, il n'y a plus du tout de lumière. Donc on est dans un environnement qui est plus proche finalement d'un contexte plus abyssal, plus profond on va dire, plutôt qu'abyssal.
Alors,
qu'on est dans un contexte normalement plus côtier. Et on va retrouver ce qu'on appelle des oursins primitifs, qu'on appelle des crinoïdes. On va retrouver beaucoup d'ophiures, donc des étoiles de mer également un peu plus primitives, qui sont un peu plus ancestrales. Et puis on va côtoyer là-dedans des poissons papillons ou des poissons demoiselles, qui sont des faunes qui sont de maintenant, qui sont toutes récentes dans les récifs coralliens. Donc on a ce mélange de faunes qui est particulièrement intéressant.
Ouais, mais ce sont vraiment des découvertes pour les plongeurs. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant, ou c'était déjà quand même documenté ?
Cet écosystème-là est complètement nouveau. Oui.
Ouais. Ouais. Donc ça fait vraiment un site inédit, en tout cas, à explorer. Donc qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent ? Alors, du côté scientifique, Serge Plane ?
Alors, du côté scientifique, c'est d'abord l'identification de toutes les espèces. Donc, par des méthodes génétiques, par des méthodes moléculaires, c'est caractériser toutes les espèces, savoir si on est en face d'espèces qui sont nouvelles et donc qui se sont adaptées spécifiquement à cet écosystème, ou si c'est au contraire un système où on est un mélange d'espèces déjà connues, mais qui crée un assemblage particulier.
Ouais. Il n'y a plus de coraux maintenant aujourd'hui à cet endroit.
Quasiment plus de coraux. Ouais. Quelques espèces encore, 2-3, mais c'est pas des coraux comme on les imagine dans les récifs coralliens. Ce n'est pas un récif corallien, c'est vraiment un récif profond. Ouais.
François Chartier, du côté de Greenpeace, alors?
Bah, pour nous, c'est plus politique. La suite, comme je l'évoquais, il y a la discussion sur la stratégie nationale des aires marines protégées en France. Et d'ailleurs, on y sera la semaine prochaine pour présenter cette expédition. Mm-hmm. L'enjeu, c'est le niveau de protection, puisqu'on a un gouvernement qui annonce 30% d'aires marines protégées d'ici 2022. Ce qu'on craint, c'est que ça soit un peu des effets d'annonce sans contenu. Et puis, il y a le calendrier international, ce traité qui va se renégocier encore en mars prochain, qui permettra la création cette fois d'aires marines protégées en haute mer, s'il est adopté, s'il est ambitieux. Et le risque, c'est là aussi, faute de portage politique, qu'on soit finalement dans la perte de contenu et d'ambition en route. Donc on veut absolument éviter ça. Oui. C'est pour ça qu'on fait vivre par cette campagne publiquement ces sujets de conservation.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une interdiction pour Total, justement, d'aller plus loin au niveau des recherches de forage. L'arrivée de Bolsonaro au Brésil remet tout en cause ou pas?
Oui, c'est extrêmement inquiétant parce que ce qui avait justifié l'annulation donc par l'administration brésilienne des projets Total reste d'actualité. C'est le même projet, là c'est BP, mais le projet est le même, au même endroit. La menace environnementale est la même, le risque pour ce récif et cette faune est la même pour la Guyane. Le changement politique fait que évidemment aujourd'hui on craint que ces licences soient attribuées, on craint que d'autres concessions soient vendues. Donc oui, on voit bien de toute façon qu'avec ce gouvernement, on va complètement à contresens de l'histoire et de la logique de sortie des hydrocarbures qu'il faudra embrayer.
Voilà, donc le premier compagnonnage entre le CNRS et Greenpeace. Greenpeace qui vous a prêté son bateau, ses plongeurs et sa logistique, quand même. Hein, parce que...
Son bateau et sa logistique, effectivement. Ouais. Après, l'équipe plongeur, c'était une équipe de plongeurs indépendante, mais qui a surtout permis de mettre en œuvre l'expédition en elle-même.
Et tout ça va permettre de belles publications dans les mois, années qui viennent, le temps d'analyser tous ces échantillons et puis d'écrire, évidemment, de la science. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Serge Plane et François Chartier. Merci Camille.
Beaucoup. À demain.
N'oubliez pas de passer sur notre site, La Terre au Carré, si vous souhaitez avoir toutes les infos concernant les sujets que nous avons évoqués cet après-midi. Denis Delbecq était à la rédaction en chef de l'émission.